Oui, tu me reçois. Oui, merci. Pardon? Alors, il y a des feuilles dans les deux coins, en principe. Juste devant la console, là, vous allez trouver sur une chaise des feuilles pour la leçon de cette semaine. Tout près de la console. OK, alors bonjour à vous quatre. Bienvenue. On va commencer le survol. Alors, ce matin, on parle de Zwingli et de Calvin. On va aller ensemble dans un mot de prière. On est dans le cours survol d'histoire de l'Église. Nous sommes dans la période de la Grande Réforme, 16e siècle. Et on va aller ensemble dans un mot de prière. Bien, Père éternel, merci Seigneur pour ce temps en Église ce matin, pour le plaisir de retrouver les frères et sœurs et de venir, Seigneur, t'adorer, venir élever nos louanges à toi, te célébrer, te dire, Seigneur Jésus, combien nous t'aimons, combien tu es précieux pour notre foi. Tu es, Seigneur, tout pour nous. Nous avons tout en toi, Seigneur. Nous avons la vie, nous avons l'espérance, nous trouvons la paix, le repos. Nous trouvons la force, Seigneur, et tu nous as donné ton esprit. Je te demande de bénir ce temps ce matin, alors que nous revoyons l'histoire de ton Église, Seigneur. Ces moments glorieux où nous voyons ton intervention, ta main souveraine pour protéger, pour exposer, Seigneur, l'Évangile. Un peu comme Pierre dans les Actes est venu et a apporté la vérité au milieu d'une religiosité qui ne permettait pas de voir et d'entendre l'Évangile, Seigneur. Eh bien, dans ta grâce, tu as permis cette période de la réforme où l'Évangile a été redonné au peuple, Seigneur. Je te prie de nous bénir ce matin, de nous aider à grandir en admiration devant tes œuvres, de nous aider à trouver du courage et de la force dans le courage de ces hommes. Viens nous conduire ensemble ce matin. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Alors, Zwingli, je suis sûr que ça vous dit peut-être pas grand-chose, à moins que vous ayez lu un survol d'histoire de l'Église. On connaît moins Zwingli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire un mot sur Jean Calvin? C'est pas celui qui a un toutou. Tigre. Rouge. Mais, c'est en l'honneur de Jean Calvin, que Calvin s'appelle Calvin. Vous pourrez aller voir qui est Hobbes maintenant. Un personnage, un philosophe. Calvin et Hobbes, non? Vous connaissez pas Calvin et Hobbes? Ah, ça manque dans votre vie, ça. Après la Bible, Calvin and Hobbes, c'est vraiment bon. Quelqu'un qui peut me parler de Jean Calvin? Qu'est-ce que vous savez sur ce personnage-là? À part qu'il avait un long nez pointu. Hey, je suis enregistré et je dis vraiment des niaiseries. Vous ne connaissez pas Jean Calvin? Le nom, bon, OK. OK. Jean Calvin... Si Martin Luther est celui par qui la réforme a commencé, parce que c'était vraiment un boulet de canon, c'est un homme qui était capable de se tenir debout et défoncer des portes, Jean Calvin est le premier qui a écrit de manière le plus systématique possible tout le conseil de Dieu. Vous savez, lorsque le Nouveau Testament nous parle du conseil de Dieu, c'est-à-dire essayer de systématiser, de comprendre tout ce que les Écritures disent sur les sujets principaux. Je l'ai dit, je le dis régulièrement dans mes cours, là. Par exemple, dans les cours de doctrine, la Bible n'est pas une encyclopédie dans laquelle on peut aller faire des recherches par entrée, par sujet. Alors, je vais aller chercher Jésus, puis je vais avoir une définition de Jésus. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, d'accord? C'est par cumulation, par étude des textes un peu partout qu'on en vient à dire, on définit, hein, on résume ce que la Bible enseigne sur Jésus. Alors, Jean Calvin, avec les instituts chrétiens, l'institution chrétienne de Jean Calvin, est probablement le premier qui a écrit le volume le plus complet, le plus solide, qui nous donne l'ensemble du conseil de Dieu. Ça a été un théologien super important, parmi les 4-5 les plus importants à travers toute l'histoire de l'Église. Si on pense à Paul, on pense à Augustin, Jean Calvin... Jonathan Edwards, vous allez pas mal là, dans les plus importants à l'intérieur de toute l'histoire de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait juste me donner un mot pour résumer un peu ce qu'on a vu concernant Martin Luther pendant que je mets de l'ordre dans mes feuilles? Quelqu'un qui veut me parler de Martin Luther? Oui. C'est un moine? qui a défroqué, mais c'est un moine. Oui. Pardon? Oui, c'est un théologien, c'est un enseignant. Oui. Alors, Martin Luther, c'est celui qui était dans l'Église catholique, qui a découvert l'Évangile en étudiant Romains, en étudiant les psaumes, et en redécouvrant l'Évangile malgré les enseignements de l'Église catholique, d'accord? Parce que l'Église catholique avait toutes sortes de pratiques vraiment qui obscurcissaient complètement l'Évangile. Quand Martin Luther a redécouvert l'Évangile, il a cherché à provoquer une réforme à l'intérieur de l'Église catholique en allant publier sur les portes de l'Église de Wittenberg ses 95 thèses, 95 points qu'il demandait à l'Église catholique de réviser. Et là, il est entré en conflit de front avec l'Église catholique. Et parce qu'il va être éventuellement protégé par un seigneur, eh bien, il va pouvoir perdurer dans le temps et puis écrire. Parce que l'Église catholique a cherché, évidemment, excusez-moi de le dire comme ça, là, mais comme elle l'a fait à plusieurs reprises à travers son histoire, à l'éliminer, à le mettre à mort. Non seulement, il ne se serait pas satisfait de l'excommunier, mais ils ont cherché à le mettre à mort pour le faire taire. Mais il a été placé sous la protection d'un seigneur en Allemagne, et il a vécu en exil, en fait caché dans un château pendant quelques années où il a continué à écrire. Martin Luther est vraiment celui qui a lancé la réforme, d'accord? Jusqu'à Martin Luther, on avait des petits mouvements obscurs qui n'étaient pas vraiment connus, qui ne pouvaient pas traverser l'Europe, qui ne pouvaient pas s'étendre, parce qu'avec les persécutions... Oui, ça peut nous amener à quitter un lieu pour pouvoir aller annoncer l'Évangile ailleurs, mais en même temps, si les persécutions sont assez systématiques, la portée de l'Évangile va être limitée, d'accord? Mais avec Martin Luther, puisqu'il a été protégé, il a pu ensuite de ça constituer une église qui est à l'extérieur de l'Église catholique, et ça a été un moment extrêmement important. On a trois personnages qui, si vous pensez à la grande réforme du 16e siècle, il y a trois personnages à retenir, d'accord? Trois noms. Martin Luther, Zwingli et Jean Calvin. Martin Luther, Ulrich Zwingli, puis Jean Calvin. D'accord? C'est les trois grands noms à retenir pour résumer la grande réforme. Maintenant, il y en a d'autres autour d'eux, Guillaume Farel, Jean Hus. On a déjà parlé de Jean Hus dans le passé, John Wycliffe. Donc, il y a d'autres personnages qui sont importants, mais les grands noms qui ressortent, qui ont posé les gestes les plus, qui ont eu le plus d'impact, ce sont ces trois personnages-là. Et vous avez ici merci. Vous avez ici les dates de leur vie, donc on peut les placer un petit peu dans le temps. Si vous pouvez remarquer, Martin Luther et puis Ulrich Zwingli sont vraiment des contemporains. 1483, 1546, 1484, 1531. Ulrich Zwingli est en Suisse, Martin Luther est en Allemagne. D'accord? Jean Calvin est leur contemporain, mais il est plus jeune, il a 25 ans plus jeune. Alors Jean Calvin n'a pas joué le rôle que ces deux hommes-là ont joué. Ces deux hommes-là ont vraiment joué le rôle d'instaurer les premières églises officielles qui n'étaient pas, c'est juste le terme en anglais, le underground, qui n'étaient pas cachées, mais qui étaient officielles dans un pays, dans un lieu donné. Et ça a ouvert la voie. Jean Calvin n'était pas un Ulrich Zwingli ou un Martin Luther qui défonce des portes. C'était un homme très timide qui aurait préféré ne pas être pasteur, mais se consacrer uniquement à l'écriture, d'accord? Donc, c'est des personnalités assez différentes, même si tous ces hommes-là, ces trois hommes-là, avaient en commun une passion profonde pour la parole de Dieu. Je vous donne un verset ici, Exode, sur ma deuxième acétate. Je vous donne un verset dans Exode 22 et 3 qui, selon moi, puis selon plusieurs, résumerait le ministère de Ulrich Zwingli. On va commencer par Zwingli. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Si vous voulez résumer l'attaque que Zwingli va faire contre l'Église catholique, parce qu'il va vraiment attaquer de front l'Église catholique, c'est que pour lui, l'Église catholique en était venue à bâtir tout un système d'idolâtrie. D'accord? Alors, quand on parle de Martin Luther s'est attaqué au système des œuvres. Il a voulu démontrer, et il l'a fait avec brio, il a voulu démontrer que l'Église catholique avait étouffé la grâce pour réinstaurer ou mettre de l'avant un système de salut par les œuvres. D'accord? Et lui, ce qu'il va s'appliquer à démontrer, c'est qu'on est sauvé par grâce, par la foi seulement. Zwingli croit ça aussi. Il croit la même chose que lui. Mais ce qui l'a le plus scandalisé et ce à quoi il s'est le plus attaqué, c'est tout le système d'idolâtrie qu'il y avait à l'intérieur de l'Église catholique. D'accord? Et ça, c'est Zwingli. Ce qui est un petit peu différent. Ça va? Alors évidemment, lorsqu'on parle d'une réforme qui va avoir un impact sur la terre entière, c'est pas un seul homme qui va faire tout le travail, ça revient pas uniquement à Martin Luther. Et Dieu suscite à ce moment-là plusieurs personnages importants, dont ce deuxième-là qu'on voit ensemble, qui est Ulrich Zwingli. Tous ces hommes-là, d'accord, que ce soit Martin Luther, que ce soit Zwingli ou Calvin ou Farel, Jean Hus aurait dit la même chose, Wycliffe aurait dit la même chose. Ces gens-là croyaient en gros dans les cinq solas, d'accord? D'où le nom qu'on a donné à la conférence sola. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire c'est quoi ces cinq solas? Ceux qui, si vous vous rappelez d'un ou deux. Sola scriptura, qui veut dire par l'écriture seule. L'écriture est notre seule autorité en toute matière de foi. D'autres? Sola gratia? Non. Sola gratia, par la grâce seule, non par les mérites, non par les œuvres. Sola fide, par la foi seule, cette grâce est obtenue uniquement par la foi. Solus Christus, par Jésus-Christ seul. Sola gloria, à la gloire de Dieu seul, d'aucun homme, d'aucune église, d'aucun nom, d'aucune autorité, d'aucun pasteur, d'accord? Sola gloria. Alors, tous ces hommes-là croyaient ces choses-là. C'était pas tout écrit comme ça, mais lorsqu'on étudie leurs écrits, lorsqu'on arrive à la fin de la réforme, on peut résumer, en gros, ce que ces hommes-là avaient en commun à ces points-là. Ils croyaient aussi que Dieu est entièrement souverain sur l'histoire, donc sur l'histoire de l'humanité. Il croyait, comme je l'ai mentionné, que le salut était par grâce seulement, à travers la foi seulement, que ce n'était pas le résultat de nos œuvres ou de rituels superstitieux. Ce à quoi Zwingli va s'attaquer davantage, d'accord? Alors lui voyait beaucoup de superstitions à l'intérieur des pratiques de l'Église catholique. Simplement pour terminer l'introduction, je vous mentionne qu'entre 1520, donc si on peut revenir aux dates de mes réformateurs, s'il vous plaît Sylvie, entre 1520 et 1530, la Bible va être traduite en allemand, en français et en anglais. D'accord? Alors ça, c'est une révolution profonde, puis vous pouvez comme ça placer un peu les choses dans le temps. Entre 1520 et 1530, la Bible va être traduite en français, en allemand, on commence en allemand plutôt, en français et en anglais. D'accord? Et comme je l'ai mentionné depuis quelques semaines, jusqu'à l'arrivée John Wycliffe, les gens n'avaient pas accès aux Écritures, d'accord? Parce qu'on utilisait uniquement la Vulgate qui avait été produite par Jérôme bien des siècles auparavant, et le peuple ne parlait pas latin, ne maîtrisait pas le latin, ne lisait pas le latin, et donc on leur lisait le dimanche des portions des Écritures à partir de la Vulgate. Vous comprenez, lorsque Zwingli regarde ça puis il dit c'est un système superstitieux d'idolâtrie où on t'amène à aller faire une pratique dans laquelle ton intelligence n'est même pas sollicitée. D'accord? Tu t'en vas là, c'est comme si vous arriviez ici puis je me mettais à parler dans d'autres langues puis vous devez recevoir une bénédiction à travers ça. D'accord? Je parle dans une langue que vous n'entendez pas, vous comprenez pas du tout, puis il y a quelque chose qui va se passer entre ce que je dis qui est incompréhensible et vous. On est vraiment dans le mystique, là, d'accord? Mais l'Église fonctionne comme ça depuis des siècles. Ça fait des siècles que l'Église fonctionne comme ça. La foi n'est donc pas intelligente. On ne suscite pas l'intelligence des gens pour nourrir la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du latin. Mais non, vient de la parole de Dieu, dans une langue que je peux comprendre, pour nourrir ma foi, pour construire ma foi. D'accord? OK, alors Zwingli, suisse-allemand, Calvin, suisse francophone, en fait français pour de vrai, mais c'est la majorité de ces réformes vont se passer à Genève. Alors les deux sont en Suisse, d'accord. Excusez-moi, je suis en train de chercher des petites informations, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Zwingli est né en 1484, comme je le mentionnais. Il a été nommé prêtre à l'âge de 22 ans en 1506 et très rapidement, il a commencé à étudier les Écritures par lui-même, à l'extérieur du credo que l'Église lui demandait d'étudier. Et donc, très rapidement, il en est venu à la conclusion que l'Église catholique était profondément corrompue et que la doctrine de l'Église devait être réformée dans différents domaines. Maintenant, ces gars-là étaient déjà en train de lire des écrits de Jean Hus, ils étaient déjà en train de voir l'influence de Martin Luther, comme je vous mentionnais un petit peu plus tôt, d'accord? C'est-à-dire, pas Martin Luther en 1506, mais peut-être plutôt Jean Hus et puis Wycliffe. C'est ça. Il a aussi été influencé beaucoup par Érasme. Érasme, c'est un penseur qui a fait un retour vers les textes anciens, vers les textes des philosophes, vers les textes des Grecs, tout ça. Et donc, venait avec ça l'idée que si tu veux étudier un texte, il faut que tu l'étudies dans la langue originale pour savoir qu'est-ce que le texte a à dire. Et donc, ça l'amenait, lui, à vouloir étudier le texte dans dans la langue originale. On dit que très tôt, Zwingli a mémorisé le Nouveau Testament en grec. On va demander de nous le réciter au ciel pour voir si c'est juste des candiratons. Mais c'est ce que l'histoire raconte, c'est que très rapidement, il a mémorisé l'ensemble du Nouveau Testament en grec, ou les Épîtres de Paul, je m'excuse. En 1516, Zwingli raconte, alors c'est un an avant que Luther mette ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, Zwingli raconte qu'il se rappelle que, conduit par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, il a réalisé l'importance de mettre de côté tout enseignement humain et d'apprendre la doctrine de Dieu uniquement à partir de sa parole. D'accord? Alors, plus tard, il va écrire, avant même que Martin Luther ait pu naiser ça sur les portes de Wittenberg, Dieu m'avait déjà montré ça, et donc Dieu est en train de faire une œuvre un peu partout en Europe et est en train de préparer le terrain pour une grande et profonde réforme à ce moment-là. Ce qui est caractéristique de Zwingli, c'est qu'au moment où il a réalisé cela, il a commencé à prêcher la parole de Dieu par exposition. Lorsque je dis le dimanche matin que dans cette assemblée, on enseigne la parole de Dieu par exposition, bien, ça veut simplement dire qu'on prend un livre de la Bible, puis on se dit, bien, dans un sens, la Bible, c'est un livre. Et donc, un livre, on ne commence pas à lire ça en disant, je suis en train de lire un roman de ce temps-ci, mais je n'irai pas à la page 38, puis après ça à telle autre page, puis à telle autre page pour voir, tu sais, puis à la fin, je vais avoir comme une espèce d'image globale. Non, je vais commencer à la première page, puis même s'il y a une introduction, puis s'il y a un mot à la fin, ça se peut aussi que j'aille le lire à la fin pour comprendre, puis là, je commence à lire le récit, puis je place tout ça dans son contexte. Alors, Zwingli, très tôt, a commencé à enseigner le dimanche matin les Écritures au peuple, par exposition directement avec l'évangile de Matthieu. Il a commencé une série avec Matthieu 1 et puis il a enseigné sur les généalogies dans Matthieu. Et donc, il a commencé à exposer directement les Écritures à partir de 1519. Cette idée de mettre l'accent sur les Écritures plutôt que sur les dogmes de l'Église a produit des crises très, très rapidement entre l'Église catholique et Zwingli. Et donc, Zwingli a réalisé qu'il ne pourrait pas demeurer en communion avec l'Église catholique. Maintenant, pour nous, ça ne veut rien dire, ça. Dans le sens que tu décides que tu changes d'Église. Il y a très, très peu de répercussions à ça réelles. Pour lui, ça voulait probablement dire la mort. D'accord? Parce qu'il était l'enseignant principal dans cette ville et il a décidé, il a commencé à communiquer qu'il ne pourrait pas demeurer en communion avec l'Église catholique. Alors, l'année suivante, après cette décision-là, il a renoncé au salaire que Rome lui versait. Et en octobre 1522, il a démissionné comme prêtre de l'Église catholique. La ville de Zurich, le conseil de la ville de Zurich, à ce moment-là, et pour vous dire que c'était une époque où Dieu est en train de préparer des choses, à ce moment-là, le conseil de la ville de Zurich l'ont embauché comme le prédicateur principal de la ville. D'accord? Nous, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se constituer. C'est pas juste un homme qui va disparaître, qui va être brûlé au bûcher, mais il y a quelque chose qui va pouvoir se constituer et on va pouvoir enseigner de manière systématique à l'extérieur du cadre de l'Église catholique. Vous voyez quand et là, les Jean-Paul II, à la fin de son ministère, a arrêté de parler des protestants comme des frères égarés. D'accord? Avant, on était les frères éloignés, les frères égarés. Ça, c'était le protestantisme. Avant, on n'était pas des frères, on était des hérétiques. Il fallait nous attraper, nous brûler. Maintenant, évidemment, les siècles ont passé tout ça, puis ça menait comme à rien, parce que la réforme était là pour rester, puis les protestants devaient cohabiter avec les catholiques dans de nombreux pays. Mais pendant des siècles, lorsqu'on parlait des protestants, bien, on parlait des frères égarés, des frères éloignés, de ceux qui ont quitté la Sainte Église pour sombrer un peu dans l'erreur. Maintenant, quand on étudie ça dans l'histoire, lorsqu'on replace ça dans l'histoire, on comprend bien que l'Église qui était dans l'erreur, c'est l'Église catholique. C'est très, très clair, c'est très simple. Et c'est contre vent et marée qu'on s'est dirigé vers les Écritures. C'est contre l'Église catholique qu'on s'est dirigé vers les Écritures, d'accord? Et si j'insiste sur ça, c'est pas pour vous encourager à avoir un sentiment de jugement ou de condamnation à l'égard de l'Église catholique. C'est pas ça le point, ou à l'égard des gens qui sont catholiques. C'est pas du tout ça mon objectif. Mais c'est que si je ne connais pas l'histoire, j'ai beaucoup de difficultés à discerner le mensonge, discerner les fausses doctrines à l'intérieur d'un système, d'accord? Alors, quelqu'un, si vous jasez avec un catholique, puis vous avez l'impression qu'il croit en Jésus, Jésus seul pour son salut, tout ça, un peu comme je vous racontais la semaine dernière, faites un bout de chemin avec lui, jasez avec lui, dites « Hey, ce serait le fun qu'on ouvre les Écritures, tu veux-tu, on va aller ouvrir les Écritures, allez dans Éphésiens 2, allez voir la grâce, allez voir ces choses-là avec lui. » Et ça se peut. Ça se peut, parce qu'à l'intérieur de l'Église catholique, moi, je pense qu'il y a des gens qui vraiment ont saisi l'Évangile. Mais s'ils grandissent dans leur foi, ils vont grandir éventuellement en quittant l'Église. C'est à peu près impossible de rester là, à moins d'être publiquement et officiellement contre plein de doctrines de l'Église. Tu ne peux pas rester à l'intérieur de l'Église catholique, parce qu'il y a tellement de doctrines qui contredisent les Écritures. C'est pas possible de le faire, d'accord? Tu crois dans le salut par grâce, puis après ça, tu fais un « Je vous salue Marie ». Pour que Marie intercède auprès de son fils en ta faveur pour le pardon de tes péchés. D'accord? Hop, tu viens d'attaquer, tu viens de détruire l'Évangile, tu t'en vas allumer des lampions, tu t'en vas faire dire des messes. D'accord? Et donc, si j'insiste sur ça et sur ces moments-là, c'est pour comprendre l'histoire, d'où l'histoire vient, et ce serait extraordinaire de voir l'Église catholique abandonner les fausses doctrines et venir aux Écritures. Mais comme je le mentionnais, le système s'effondrerait, dans le sens que du jour au lendemain, l'Église devrait dire en quelque sorte nos bâtiments, pour leur valeur historique et religieuse, n'ont aucune importance. Et si c'est un fardeau pour nous, on va aller se mettre une pop tent à côté, puis on va se réunir dans une pop tent, par exemple. D'accord? Mais tout est bâti autour de cette espèce de culte, comme je vous dis, d'expérience mystique, où l'intelligence de la foi n'est pas nécessairement nourrie, mais c'est plus une expérience qu'on va vivre. Un commentaire que celui qui a monté le cours faisait, c'est à quelques reprises à travers l'histoire de l'Église, on voit quand même l'importance de travailler avec une congrégation. Et donc, cette réaction à ce moment-là que le conseil de la ville de Zurich a eu de nommer Zwingli comme prédicateur, en quelque sorte, c'est du congrégationalisme. Il y avait plus de discernement de la volonté de Dieu dans cette population qu'à l'intérieur du clergé lui-même officiel de l'Église, d'accord? Et ça va se répéter à quelques reprises pendant la Grande Réforme. Et Zwingli a dit lui-même, l'homme commun, ou le commun des mortels adhère à l'Évangile, bien que ses supérieurs, le clergé, n'en veulent rien savoir. Alors, Zwingli et Zurich vont finalement couper les ponts entièrement avec Rome quelques mois plus tard, en 1523. Et lorsque Zwingli a cherché à se défendre contre les critiques de l'Église catholique, de la hiérarchie de l'Église catholique, en demandant un conseil, alors il a présenté 67 articles, 67 déclarations, 67 points théologiques qui résumaient les doctrines qui devaient être remises en question, selon lui, à l'intérieur de l'Église catholique. Et Zwingli a déclaré à ce moment-là que les 600 personnes qui étaient réunies là étaient une autorité suffisante et aussi avaient autant d'autorité qu'un saint concile de l'Église. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Parce que tout le raisonnement de l'Église catholique vient du fait, cet héritage à travers Pierre et cette lignée pure qui doit se rattacher à Pierre fait qu'en elle-même, parce qu'elle est la seule héritière, parce qu'elle prétend être la seule héritière de Pierre, d'accord? À l'extérieur de ça, il n'y a pas de salut. Et donc, c'est autant important d'être appuyé par l'Église qui a été choisie par Dieu que de savoir si elle dit la vérité. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais la semaine dernière. Il y a des gens avec qui vous parlez. Vous voyez dans le processus qu'ils sont en train de comprendre des choses. Ils voient que l'Église catholique n'enseigne pas toujours la vérité. Ils commencent à saisir tranquillement l'Évangile. Et si vous arrivez à leur parler de prendre une décision pour Christ, puis dans leur tête, ils comprennent que ça veut dire qu'éventuellement, ils risquent de devoir quitter l'Église catholique, vous allez parler avec des gens, puis ils vont vous dire « Ah non, je ne peux pas. » Et leur sécurité pour leur âme, et dans le fait que cette Église-là n'a pas pu se tromper pendant tous ces siècles-là, c'est pas possible. Elle est l'héritière de Christ, l'héritière de Pierre. D'accord? C'est, comme je vous dis, c'est encore une foi qui est un espoir qui est ressenti plutôt que réfléchi. Donc, ça vous est arrivé, j'imagine, à plusieurs d'entre vous. Là, vous avez parlé avec des gens comme ça. Vous voyez qu'ils discernent, ils saisissent. Qu'il y a beaucoup d'erreurs, puis qu'il y a beaucoup de fausseté à l'intérieur de l'Église catholique. Ils vont même dire, ah, le pape t'en prend, puis t'en laisse les curés, tout ça. Mais il y a cet attachement émotif-là à l'Église qui est leur seul espoir, puis ils vont rester là. Parce que renier ça, ça serait renier finalement tout ce qui reste de leur foi, c'est juste ça qui leur reste, c'est dire qu'ils sont catholiques. D'accord? Mais leur espoir est là. Et quand Zwingli dit non, c'est 600 personnes qui sont réunies ici, ont autant d'autorité. Et s'ils sont conformes avec les Écritures, ils ont plus d'autorité que les saints conciles de l'Église catholique. C'est énorme ce qu'il est en train de faire là, d'accord? On s'en va tranquillement vers ce processus où on dit, les amis, prenez la Bible, lisez la Bible, puis prenez, ayez du discernement vous-même devant Dieu, d'accord? Qui est un des principes fondamentaux, sur la Scriptura, un des principes fondamentaux de la Réforme. Au moment où ça s'est passé, ça faisait déjà, là on est en 1523, en 1519, Ulrich Zwingli a commencé à prêcher la parole de Dieu à partir de Matthieu 1. Et donc ça faisait déjà presque 4 ans que les gens de Zurich étaient sous la prédication de la parole. Et probablement que c'est un facteur qui a joué dans cette assurance. Quand tu instruis les gens dans la parole de Dieu, éventuellement, ils vont avoir le discernement des choses qui sont fausses et des choses qui sont vraies. D'accord? Dans leur cas, c'était vraiment d'aller contre toute l'Église catholique et contre des siècles d'histoire. Mais probablement que c'est un facteur qui a joué, puisque Zwingli a eu la sagesse tout simplement d'exposer les Écritures semaine après semaine. D'accord? Et c'est ce qu'on cherche à faire dans l'Église. C'est pour ça qu'on fait ça le dimanche matin. On n'est pas là, premièrement, pour... des fois, j'arrive devant les textes. Là, cette semaine, j'étais devant mon texte, puis je disais, « Bon, OK, Pierre prêche encore l'Évangile. Il fait un miracle. Les applications pratiques, là, to do, how to, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens cette semaine? 1, 2, 3, comment tu m'aides à avoir une plus belle journée au travail? J'ai besoin que tu me redonnes la joie, parce que je suis pas tellement joyeux de ce temps-ci. » C'était là, puis là, tu te dis, OK, je vais en trouver des applications, là, mais si je prêche juste le texte pour le texte, là, mes applications sont pas mal sur annoncer l'Évangile. Assurez-vous que vous comprenez bien l'Évangile. Payez foi en Jésus-Christ. Ça, c'est mes applications principales. C'est ça que le texte dit. D'accord? Pourquoi on fait ça? Je veux dire, je pourrais prêcher chaque dimanche matin des messages qui disent « Voici ce que vous devez faire pour être heureux. Faites ces points-là cette semaine. Vous allez trouver la joie. Appliquez ça dans votre vie. Ça va régler vos relations. » Comment ça serait plus concret? Puis les gens qui veulent « Hey, je veux quelque chose de pratique » seraient beaucoup plus stimulés. On ne croit pas que c'est ça qui bâtit la foi. Nous croyons que c'est la parole de Dieu qui bâtit la foi. Donc, lorsque j'arrive devant le texte, je suis, moi, comme prédicateur, prisonnier du texte. C'est important. Je dois me soumettre au texte et dire qu'est-ce que l'auteur voulait dire premièrement dans ce texte-là. Puis ça, ça doit être le point principal de mon message dimanche matin. Comprenez, la parole de Dieu pour nous, c'est pas une grande encyclopédie à l'intérieur de laquelle tu vas puiser toutes sortes de sagesse pour la vie. C'est ça, je peux aller chercher des choses sur l'éducation de mes enfants, tout ça. Mais c'est pas ça premièrement. C'est une lettre que Dieu a écrite. Mon mandat à moi, c'est de vous dire ce que Dieu a dit, de vous aider à saisir ce que Dieu a dit. C'est tout. Et donc, quand je prépare une prédication puis j'arrive devant un passage, en principe, si vous lisez le texte pendant la semaine, avant le dimanche matin, vous savez déjà c'est quoi mon point principal dimanche matin. Vous pouvez rester couché chez vous. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Si j'ai bien fait mon travail, là, vous savez déjà c'est quoi le point principal de mon sermon. Et donc, tout ce que je fais, moi, c'est que je plonge, je fouille, j'essaie de voir en profondeur la richesse de ce qu'il dit là, la beauté de ce qu'il dit là, son implication pour notre foi. Et par l'Esprit de Dieu, je viens vous livrer ça dimanche matin. Et on demande à Dieu d'être là dans cette rencontre-là, de prendre la parole, de venir l'appliquer dans nos cœurs, de venir façonner nos cœurs à travers ça. Et donc, c'est ce que Zwingli a fait pendant 4 ans. Et lorsqu'il est venu le temps de dire, bon, mais est-ce qu'on rentre dans l'Église catholique ou est-ce qu'on prend position, est-ce qu'on est ferme, est-ce qu'on se tient debout? Ça faisait 4 ans qu'il était nourri par la parole de Dieu. Il était prêt. C'est correct. On va continuer à marcher selon les Écritures et non selon la Sainte Église catholique. La doctrine de Zwingli. Quels sont les éléments importants de mentionner? Bien, comme je l'ai dit, il croyait à tous les éléments essentiels de la Réforme. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, sola gloria. Donc, tous les essentiels étaient là. Comme je le mentionnais, Zwingli s'est beaucoup attaqué à l'idolâtrie qu'il voyait à l'intérieur de l'Église catholique. Alors, lui a mis... Et puis, ça donne un service le dimanche matin qui va être un peu différent de Martin Luther. D'accord? Alors, lui a mis énormément d'efforts à purger complètement la pratique religieuse de tout ce qui pouvait être superstition, tout ce qui pouvait être idolâtrie. Martin Luther va le faire aussi, mais ça va amener Zwingli à aller un petit peu plus loin. Comment est-ce qu'on appelle ça, ce principe-là? Excusez-moi, je ne vais pas vous induire en erreur. Là. Regulative principle. Ça va conduire Zwingli à dire « Le chrétien ne doit faire que ce qui est prescrit dans la Bible. » Martin Luther n'est pas d'accord avec lui. Martin Luther lui dit, le chrétien ne doit pas faire ce qui est interdit dans la Bible. Je répète ça, là, je sais que ça prend 2 cafés à cette heure-ci. Là. D'accord? Alors Zwingli dit, juste ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça qu'on doit faire les chrétiens. C'est tout, on s'arrête là. Pas d'école du dimanche, c'est les parents qui doivent instruire les enfants dans la foi. C'est pas écrit dans la Bible qu'on instruit les enfants dans la foi dans l'Église. On ne devrait pas avoir d'école du dimanche à l'Église. D'accord? C'est pas écrit dans la Bible, c'est la responsabilité des parents d'instruire les enfants, pas d'école du dimanche dans la Bible. C'est ce que Zwingli croyait, par exemple. D'accord? Zwingli dit il n'y avait pas de guitare dans l'église. D'accord? Pas d'instrument de musique. Aucun instrument de musique dans le service. Zwingli n'aurait pas eu des acétates, ça c'est certain. Il n'y en avait pas. D'accord? Mais c'est ça, alors c'est le point de Martin Luther. Martin Luther, il dit on arrête quand? Parce que Jésus n'avait pas de bâtiment non plus. Fait qu'on arrête quand, tu sais? Fait que, bon, j'ai pas eu de discussion avec Zwingli, c'est un homme intelligent, mais son point, donc, c'est « regulative principle », ce qui est prescrit par la Bible et la règle de ce que nous devons faire. Martin Luther, lui, il dit non, ce qui n'est pas interdit dans la Bible, c'est-à-dire ce qui est interdit dans la Bible, nous ne devons pas le faire. Et donc, si c'est pas interdit, c'est pas nécessairement mal non plus. D'accord? Et ce que ça donne, c'est que Martin Luther, c'est un amoureux de la musique. Fait que la louange se faisait avec des instruments de musique, puis on louait avec des instruments de musique. D'accord? Ça va être une distinction que ces deux hommes-là vont avoir. Et si vous voulez, par exemple, cadrer une église évangélique baptiste dans tout ça, bien, le principe qui reste de ça, on est plus près des du regulative principle que de l'autre. Alors, la manière qu'on va le résumer, c'est qu'on va dire les saintes écritures sont entièrement suffisantes. Et si je vais chercher quelque chose à l'extérieur, ça ne doit pas être perçu comme quelque chose de nécessaire à la foi. C'est pas vrai qu'on a besoin de musique pour louer Dieu. On peut la faire avec notre voix, la musique. On n'a pas besoin d'instruments. Est-ce que ça veut dire que c'est mal? Mais dans ce sens-là, on est du côté de Martin Luther. Non, on dit que c'est pas mal d'avoir des instruments de musique. D'accord? Pardon? Oui, alors il y avait des luttes, tout ça, mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est moins évident, ça semble plus épuré. Fait que Zwingli se serait appuyé sur ça dans le Nouveau Testament. D'accord? Fait que dans les églises évangéliques baptistes, ce qu'on va dire, c'est les Écritures sont entièrement suffisantes et tout ce qu'on ajoute, d'accord, ne devrait pas venir prendre la place des Écritures. Laissez-moi vous donner un exemple. Psychologie. La psycho. Si j'étais Zwingli, je dirais, bien, la psychologie, c'est mal. Si j'étais Martin Luther, à partir du moment où un principe de psycho ne vient pas contre les Écritures, c'est bien, tu peux t'en servir, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer de ça aujourd'hui dans une assemblée évangélique en général qui est bien fondée dans les Écritures? C'est qu'on va dire, ça ne doit jamais remplacer la parole de Dieu. Ces choses-là ne peuvent pas remplacer. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en servira pas. Mais si dans notre esprit, c'est ça qui vient régler le problème fondamental de l'homme, on n'est pas dedans pantoute, c'est les Écritures qui vont le faire. D'accord? Et donc, on va aller vers ces principes-là comme un appui, comme un élément qui peut nous éclairer. Par exemple, vous pouvez m'entendre dire régulièrement, il y a bien des psychologues qui font plein d'observations très justes. Ils font des études de cas, puis ils peuvent comprendre des choses qui se passent, des comportements, tout ça. Généralement, ils n'auront pas la solution fondamentale. Parce que leur solution fondamentale, ce n'est pas l'Évangile qui vient régler le problème du péché dans le cœur de l'homme. Ils vont dire plutôt « adapte tes comportements pour être plus confortable ». Alors que les Écritures vont nous dire non, adapte tes comportements pour être plus sain. D'accord? Et à travers ça, tu vas trouver ton bonheur. Ça va? Fait que ça, c'est une distinction entre ces deux personnes-là qui est quand même importante. Ce n'est pas sur les doctrines fondamentales, mais ça vient façonner la forme de l'Église. Et vous pouvez vous promener, vous pourriez fréquenter plein d'églises évangéliques, non évangéliques, tout ça. En regardant comme il faut généralement comment ça se passe dans l'Église, vous pourriez dire cette Église-là, est allé au-delà de ça, pense qu'il y a plein d'autres choses absolument nécessaires pour pouvoir réussir, qui n'est pas dans les Écritures, où il s'appuie fondamentalement sur les Écritures comme le moyen de faire grandir la foi. Vous pourriez le discerner. Pour résumer les choses que Zwingli a attaquées à l'égard de l'Église catholique, il s'est attaqué aux prières non réfléchies, donc les prières répétées, les jeûnes prescrits plutôt que des jeûnes qui viennent d'une impulsion du cœur, d'un désir du cœur, les têtes rasées des moines, les jours saints, l'encens, les chandelles qu'on fait brûler, l'eau sainte qu'on asperge, les prières des nonnes, les vigiles, les messes du matin et du soir. Pour lui, tout ceci n'était que, il y a une expression, tomfoolery. C'est comme l'art des fous, là, si on peut dire. Et c'était vraiment quelque chose qui était là pour placer le peuple dans un sentiment de religiosité. Mais ce n'était pas fondé dans les Écritures. Et c'est vraiment ça que Zwingli va attaquer pendant une bonne partie de sa vie. Alors c'est ça, comme je le mentionnais, il a détruit tous les autels dans les églises, les icônes des saints, les peintures ont été brûlées. Toutes ces choses-là ont été détruites parce que pour lui, c'était devenu un culte et de l'idolâtrie. Martin Luther et Zwingli avaient un gros différent. Je vous ai dit, ces gars-là, c'était des gars entiers. Hein? Fait que quand je dis un gros différent, là, grosse chicane qui ne s'est jamais réglée avant leur mort. D'accord? Ils ont même fait une réunion pour essayer de s'entendre, puis ils sont partis fâchés chacun de leur côté. D'accord? Luther, Martin Luther. Ah oui, c'était des gars entiers. D'accord? C'est à quel sujet? Le repas du Seigneur. Alors, Martin Luther a attaqué l'Eucharistie comme l'Église le faisait en disant il n'y a pas de mérite de salut dans l'Eucharistie. D'accord? L'Eucharistie fait partie des mérites pour l'Église catholique. Lorsque tu vas prendre l'Eucharistie, ceci contribue à ton salut et contribue à, dans une certaine mesure, à effacer des fautes que tu aurais. Donc, tu es en train de gagner ton ciel en étant fidèle à l'Eucharistie. D'accord? Qui ressemble un petit peu, par exemple, à ce que les musulmans font en faisant leur prière quotidienne, en faisant leur pèlerinage à la Mecque une fois dans leur vie. Ce sont des choses qu'ils doivent mettre dans leur parcours de croyant pour que Allah, après, leur offre miséricorde. Cette miséricorde-là est conditionnelle à ces questions-là, à ces actions-là. L'Église catholique disait ça sur l'Eucharistie. Martin Luther a dit, non, c'est pas vrai. L'Eucharistie n'a aucune valeur de mérite. On est là pour être en communion avec Christ et se souvenir de ce que Christ a fait. Mais pour Martin Luther, il y avait une communion spéciale, spirituelle. Alors lui, il appelait ça la co-substantiation, non pas la transsubstantiation. L'Église catholique parle de transsubstantiation. Le pain devient vraiment le corps de Christ. Si vous voulez comprendre jusqu'où ça peut mener, vous irez lire la biographie de Charles Shinicky sur ce moment où du pain consacré a été perdu en hiver. Puis ils ont passé des jours à chercher ça parce que le corps du Christ avait été perdu, tout ça. Bon, Shinicky avait un ton assez moqueur par moment, là. Mais ça, c'est la transsubstantiation. Et effectivement, c'est le corps de Christ. C'est maintenant la chair du Christ, c'est pas du pain. D'accord? Martin Luther croyait que vraiment, lorsque ça s'est consacré, Christ est présent à ce moment-là et est présent aussi dans ces objets-là. Il dit, c'est encore du pain, mais il y a une communion spéciale avec Dieu qui se passe à ce moment-là, mystique qui se passe à ce moment-là. Zwingli dit, non, c'est un mémorial. Zwingli dit, nous faisons ça en mémoire. Alors, s'il y a quelque chose de spécial qui se passe, c'est dans notre communion personnelle avec Dieu, parce qu'on est en train de méditer sur le sacrifice de Christ, on est en train d'adorer Christ pour son sacrifice, on est en train de s'en souvenir. Vous voyez déjà c'est quoi la position de cette Église-là, si vous êtes attentif à mon ton. Mais donc, pour nous, c'est un symbole. D'accord? En ceci, on est plus près de Zwingli. Alors, pour lui, c'était un mémorial. Et bon, je ne vous dirai pas les paroles que Luther a prononcées contre Zwingli là-dessus, mais j'ai dit que Martin Luther faisait des caricatures du pape assez dures. Hein? C'est ça, il a été aussi assez dur envers Zwingli. Donc, ces deux hommes-là n'ont jamais réussi à se réconcilier sur cette question-là. D'accord? Mais comme je le mentionnais lorsqu'on a abordé la question de la réforme, c'est pas pour excuser ce qu'ils ont fait. Puis, je vais vous mentionner, je pense, la semaine prochaine, quelque chose concernant Calvin. Mais ces hommes-là ont commis des erreurs, d'accord? Et il n'y a rien qui justifie ces erreurs-là. En même temps, il faut réaliser d'où ils partaient, là. D'accord? Il faut réaliser le ménage qu'on est en train de faire. C'est fou, là. Et pensez un petit peu à des chrétiens de première, de deuxième génération. Vous savez, si vous connaissez au Québec, on en a moins, mais on en a un petit peu. Des fois, des chrétiens, des familles où l'Évangile est là, puis vécu avec une belle piété pendant 3-4 générations, il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, moi, je discute souvent avec des pasteurs américains. C'est pour dire que toutes les églises évangéliques américaines vont bien. Au contraire. Mais quand même, il y a un bassin de gens qui cherchent Christ depuis plusieurs générations, d'accord? Et qui marchent par la foi dans l'Évangile depuis plusieurs générations. Et il y a une espèce de maturité. Ces gens-là ne luttent pas nécessairement avec les mêmes péchés. C'est pas vrai pour tout le monde. D'accord? C'est pas vrai pour tout le monde. Mais si on faisait une proportionnelle, un prorata, ben ça donnerait, on verrait ça. Et c'est évident. C'est évident comme bassin ce que tu vas trouver. Un petit peu de la même manière, par exemple, qu'au début dans les Actes, on pouvait plus rapidement nommer des Juifs convertis au christianisme ancien que des païens convertis au christianisme ancien. Parce que les Juifs avaient tout l'Ancien Testament. Il y avait déjà une poursuite de la sainteté. Finalement, souvent, ce qu'il fallait, c'était corriger quelque chose de fondamentalement faux. Mais en même temps, la piété était là depuis longtemps, depuis des années dans leur vie. Mais lorsque vous arriviez avec un païen qui se livrait à toutes sortes de pratiques, toutes sortes de péchés, toutes sortes de débauches, boy, le travail de réforme est long, il est en profondeur, d'accord? Alors, on le vit dans nos églises, on le voit, c'est notre réalité, c'est notre expérience. C'est un petit peu la même chose avec la réforme. Ces hommes-là ont fait un ménage incroyable. Ce ménage-là va se continuer pendant 2-3 siècles, je vous dirais. D'accord? Où il y a des choses qu'eux autres faisaient, puis nous, on regarde les Écritures, puis on dit, ben non, ça ne se peut pas. C'est comme, regarde, tant qu'à être avec les Écritures, vas-y donc à fond. Mais vraiment, on partait de loin, d'accord? Et donc, ce conflit-là se règle pas entre ces deux hommes-là. Alors, une autre distinction entre Martin Luther et Zwingli, c'est que, et en ceci, on différerait de Zwingli, c'est que Zwingli et Luther n'avaient pas la même compréhension des deux royaumes. Quand je parle des deux royaumes, c'est que généralement, ce que vous entendez enseigner dans l'Église ici, puis la majorité d'entre vous, ça c'est assez clair pour vous, on est citoyen de la terre et on est citoyen des cieux. Les deux cités de Saint-Augustin dont j'ai parlé plus tôt dans le survol d'histoire. Et donc, on comprend que notre influence sur la terre n'a pas à être la même que lorsqu'on va être dans la présence de Dieu. Et l'application de la loi de Dieu ne pourra pas être la même sur la terre que lorsqu'on va arriver dans les cieux. Et ceci est fort différent dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a une théocratie, d'accord? Dans cette théocratie, le roi est censé marcher avec Dieu, prescrit les ordonnances. Les lois civiles sont conformes avec la parole de Dieu. Pas compliqué? Fait que tu suis les lois civiles, puis tu es en train de suivre la loi de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans le royaume d'Israël. Oui? Yves. Moi, je comprends ce que tu veux dire. La question d'Yves, c'est est-ce qu'on parlerait pas de monarchie à partir du moment où tu as des rois? Oui et non. Lorsque je parle de théocratie, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de distinction à faire entre l'État et l'Église dans ses principes de marche. Et donc, l'État s'engage à honorer parfaitement la parole de Dieu et l'État s'engage à faire appliquer dans tout ce pays-là la loi de Dieu. Et dans ce cas-là, j'ai une théocratie. D'accord? Nous ne croyons pas ça. Nous croyons que si tu avais un premier ministre, par exemple, chrétien au Québec, qui disait les musulmans peuvent venir vivre et peuvent faire leur culte. Moi, personnellement, comme chrétien, je voudrais qu'ils deviennent chrétiens, même si je suis premier ministre. Mais je ne vais pas essayer de chasser toute autre pratique que le christianisme. Bien, on ne serait pas là en train de se dire ils pêchent. Non, je veux dire, nous, on évangélise, puis ces gens se convertissent. Tant mieux pour eux, c'est ce qu'on leur souhaite, mais on n'est pas là pour mettre des lois en place pour interdire toute autre religion que le christianisme, d'accord? Bon, Martin Luther, c'est ce qu'il croyait. On est citoyen des cieux, puis sur la terre, pendant qu'on est citoyen sur la terre, on essaie le plus possible de communiquer la parole de Dieu. C'est ça qu'on cherche à faire. Zwingli croyait plus à un système théocratique, et donc il va travailler à ce que toutes les lois civiles soient conformes avec la parole de Dieu. Et donc, quelqu'un qui attaquerait avec des armes, là, une armée qui viendrait attaquer une ville qui est en train de défendre l'Évangile, ça doit être défendu avec les armes et avec l'épée. Et donc, ça va conduire Ulrich Zwingli à devenir l'aumônier principal de l'armée et d'aller à la guerre. Pas juste avec une Bible, mais avec une armure et des armes. D'accord? Parce qu'il croyait qu'il fallait défendre cette sainte ville où l'Évangile était en train de conduire tout le monde au Seigneur. D'accord? Et Ulrich Zwingli va être blessé au front et va mourir des conséquences de ses blessures. Et donc, vous avez déjà une autre image d'un grand réformateur. Ulrich Zwingli mort à la guerre pour défendre cette ville contre l'attaque d'une armée catholique. D'accord? Parce qu'il croyait justement qu'il fallait... Une fois que tu apportes l'Évangile et que le conseil de la ville décide de défendre les principes de la parole de Dieu, on y va avec toute la ville progressivement, d'accord? Et donc ça, ce serait une distinction majeure que nous, on aurait avec lui et qu'il y avait entre Martin Luther et lui. Et c'était donc un Suisse nationaliste passionné. Et comme je vous dis, il a été blessé au combat et il est décédé des suites de ses blessures. Oui. Mais Zwingli, lui, allait à la guerre. Ah. Tu veux dire, c'est le contraire? Oui, le contraire. Alors, les Ménonites, par exemple, c'est ça, les Ménonites, eux, vont aller plus loin, généralement, que les Baptistes vont faire. Dans le sens que pour nous, on va dire, nous, on est citoyens de la terre. Fait que si mon gouvernement m'appelle à aller en guerre, à moins clairement que je vois que ce soit une guerre profondément injuste, mais je vais aller me battre. Et comme s'il y avait un voleur qui rentrait chez nous, ben, je donnerais une tape sur le nez, puis après ça, j'y annoncerais l'Évangile, tu sais. Fait que, bon. Mais les Ménonites, eux autres, ils disent non, nous autres, on est citoyens des cieux, on n'a pas d'affaire à aller à la guerre. Et donc, eux autres vont aller jusqu'à la désobéissance civile pour ne pas aller jamais faire la guerre, puisqu'ils sont citoyens des cieux d'un autre royaume. D'accord? Voilà pour Ulrich Zwingli. Je vais introduire un petit peu, présenter un peu Jean Calvin, puis on va vraiment couvrir plus Jean Calvin la semaine prochaine. Jean Calvin, 1509 à 1564. À moins que vous auriez eu des questions sur Zwingli. Oui, Charity. Pardon? Oui, je l'ai mentionné dans les notes. Hein? Non, j'en ai pas parlé. C'est un peu complexe comme concept. Dans les notes, vous avez l'idée qu'il faisait une distinction entre le créateur et la créature. Mais il a beaucoup développé cette idée-là que Dieu est notre créateur et que nous, on doit rester dans notre position de créature et d'adorateur. Et donc, qu'on devrait adorer personne d'autre que le créateur. C'est un accent de sa théologie. D'accord? Martin Luther enseigne ça aussi. Martin Luther ne met pas un accent autant sur ça. D'accord? Et donc, pour lui, l'Église catholique, ça revient encore avec son différent avec l'Église catholique. Pour lui, l'Église catholique n'avait pas le droit de nous amener à adorer des saints. Donc Jésus, Dieu le Fils, ça va, je peux l'adorer, il fait partie de la Trinité. Marie, Pierre, Jean, je n'ai pas l'affaire à me courber devant ces gens-là. Ce sont des créatures et non le Créateur, d'accord? Et donc ça, c'était un accent, je m'excuse, de sa théologie. D'autres questions sur Ulrich Zwingli? Paul? Nationaliste? Pourquoi il a fait ça? Mais c'est sa théologie. Je pense pas que c'est par pression populaire, parce que Zwingli a commencé à enseigner la parole de Dieu contre la volonté de l'Église catholique, sans même que le concile l'ait appuyé. C'est après que le concile va l'embaucher comme enseignant principal. Et donc, c'est un homme qui avançait avec conviction. Mais ça, dans sa théologie, il y avait une compréhension. Ça va un petit peu avec l'eschatologie, d'accord? Je ne vous embarquerai pas dans toute l'eschatologie, là, mais généralement, vous allez entendre parler des pré-milles, des a-milles, mais il y a les post-milles aussi. Puis l'Église catholique se situe un petit peu plus là. C'est qu'on va accomplir le royaume de Dieu sur la terre, on va instaurer le royaume de Dieu sur la terre, et quand l'Évangile aura... Quand suffisamment de personnes seront devenues chrétiens et l'Évangile aura... réguler, je m'excuse là, mais aura façonné la vie des humains sur terre, en sorte à ce que les principes du royaume soient suffisamment présents sur la terre, Christ va revenir. Et donc ça va avec l'eschatologie post-mille. Je m'excuse là pour ceux qui disent de quoi ils parlent, là. Et donc Zwingli croyait que c'était le mandat de l'Église, non seulement d'enseigner l'Évangile, mais d'enseigner les principes de sainteté de la parole de Dieu et progressivement de se rendre partout. Et si on voulait s'attaquer à une communauté qui était en train de vivre les principes de l'Évangile, on sort l'épée puis on s'en va attaquer l'hérétique. D'accord? Ça, c'est Zwingli. Oui, Yves. C'est ça. Nous, on ne croit pas. Jésus lui-même pose la question, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre, est-ce qu'il va revenir? Donc, on ne croit pas que Jésus va revenir à un moment où il va trouver une terre extraordinairement croyante, chrétienne, qui marche selon les préceptes de la parole de Dieu. Mais le post-millénarisme est à peu près tombé avec la chute de Rome. D'accord? Donc, vous comprenez, là, ceux qui sont avec moi dans le cours là, depuis le début, on a parlé de l'impact sur les pères de l'Église lorsque Rome a commencé à tomber. Puis là, ils ont dit, attends un petit peu, là. Nous autres, on pensait que le royaume était en train de s'établir. On est dans Actes. Dans Actes, les disciples disent, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Les pères de l'Église, quand ils ont vu Constantin devenir chrétien, vrai ou faux, mais devenir chrétien. À ce moment-là, ils ont dit, wow, Rome va devenir le porte-étendard du christianisme jusqu'au bout de la terre. Puis là, ils voient Rome tomber. La majorité ont compris à ce moment-là que l'État et l'Église ne vont pas de pair jusqu'au retour de Christ. Tu as l'État, puis Dieu, dans sa souveraineté, établit l'État pour mettre des lois, tout ça. Mais l'Église, c'est pas l'État, puis l'État, c'est pas l'Église. D'accord? Maintenant, donc c'est pour ça que je dis que le post-millénarisme est à peu près disparu à ce moment-là. Il est resté dans une théologie catholique, mais c'est pas mis de l'avant, d'accord? Et donc, c'est à peu près disparu avec la chute de Rome. Mais il y a resté des gens, au fur et à mesure, à travers l'histoire de l'Église, qui ont continué à croire ça. Et dans un sens, lorsque vous voyez des chrétiens, on le voit plus aux États-Unis, et c'est une ligne fine dans laquelle, où nous, on ne voudrait pas tomber. Lorsque vous voyez aux États-Unis des chrétiens qui sont très, 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 très engagés à faire des œuvres sociales, puis qui veulent essayer de réformer la société, d'accord? Il y a cette espèce de fond-là de dire l'Évangile va venir non seulement changer le cœur et non seulement changer le style de vie d'un individu à la fois, mais l'Évangile pourrait venir réformer la société. D'accord? Et donc, ces églises-là s'investissent à fond dans des œuvres sociales. Il y a un petit peu cette idée-là, d'accord, que s'il y a suffisamment de chrétiens, toute la vie de l'Église, toute la vie de la ville va changer. La ville va devenir différente. On n'embarque pas là-dedans. D'accord? Et donc, si je fais des bonnes œuvres, c'est parce que Christ m'a transformé. Puis parce que je vais être un bon samaritain, puis je vais aimer les gens autour de moi, tout simplement. Mais ce n'est pas parce que je pense qu'on va accomplir le royaume de Dieu sur la terre, puis la société va être réformée. En tout cas, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je pense que je vais m'arrêter ici. On est à 2 minutes, puis on va garder Calvin pour la semaine prochaine. J'ai mentionné les institutions chrétiennes de Jean Calvin la semaine dernière comme quelque chose que je vous encourage à lire. Bon, après la Bible, ce sera probablement le deuxième plus gros livre que vous aurez lu dans votre vie, là, si vous lisez les institutions chrétiennes de Jean Calvin, mais c'est quand même un honneur assez extraordinaire qu'on a d'avoir cet ouvrage-là qui a été écrit en français, dont l'auteur est francophone, il est français. Donc, et cet ouvrage-là est lu par tous les docteurs sérieux qui font des études avancées, le lisent encore aujourd'hui, en anglais généralement, pas en français, on s'entend. Il y a une réédition qui a été faite, qui est sortie voilà 2 ans. La semaine prochaine, je voulais l'apporter ce matin, j'ai oublié. La semaine prochaine, je vais vous apporter ma copie, d'accord? Parce que vous pourriez être tenté d'aller acheter la vieille édition qui se vend comme en 5 volumes. Puis vous dites, ça va me coûter moins cher, je vais acheter un volume à la fois. Oui, mais c'est vraiment du vieux français, là. Les F et les S, c'est difficile à suivre un petit peu. Fait que, non, là, vraiment, c'est beaucoup plus simple. C'est fait à la Jean Calvin, donc c'est une écriture qui est costaude, là. Mais honnêtement, vous décidez de lire une page par jour de ça et vous allez être profondément édifié dans votre foi. Vraiment édifié, la beauté de la parole de Dieu, la beauté de l'Évangile, parce que ces gars-là écrivaient la théologie, pas qu'on écrit des formules de mathématiques, là. D'accord? Ils sont en train d'adorer Dieu pendant qu'ils écrivent tout ça. D'accord? Alors, on va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. On revoit l'histoire de l'Église et il y a des choses qui m'apparaissent comme des aberrations incroyables, Seigneur. Et c'est tellement évident pour moi, mais si c'est évident pour moi, c'est en raison de l'héritage que ces hommes m'ont laissé, Seigneur. C'est parce qu'ils ont opéré ces réformes sous la direction de ton esprit, pour revenir à ta parole, Seigneur. Et aujourd'hui, ces principes qui étaient vraiment des découvertes majeures vont de soi pour nous. Ça fait partie de notre vision du christianisme sans nécessairement connaître le prix qui a été payé pour nous ramener là, Seigneur. Et je veux te bénir. C'est ta main souveraine qui bâtit ton Église, Seigneur. Ces hommes n'étaient pas parfaits et on n'a pas à les adorer, à leur vouer un culte quelconque, Seigneur. Mais à toi, nous voulons le faire parce que toi, tu es fidèle. Et ton esprit bâtit, construit, attire, conduit dans les Écritures. Et nous te bénissons pour ça, Seigneur. Aide-nous à apprécier ce grand privilège que nous avons de lire la Bible dans notre langue, de pouvoir l'étudier semaine après semaine, de pouvoir se placer sous le ministère de ta parole et de ton esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.